Bonjour chers auditrices et auditeurs, une nouvelle fois encore, nous allons passer une heure pour notre plus grand plaisir et le vôtre, du moins nous l'espérons. Pour l'heure qui suit, nous serons deux pour animer l'émission. Votre humble serviteur et à la technique, tenez-vous bien, c'est une première aujourd'hui, la patronne. J'ai nommé Hélène, nous allons être tolérants aujourd'hui, du moins on va essayer. Et oui, l'inusable grand chef, Jeff, aujourd'hui a voulu faire relâche, mais après une semaine de repos, il va revenir frais et dispo la semaine prochaine. Bonjour Hélène, ça va? Pas trop le trac d'être aux commandes, non? Eh oui, bon, c'est à toi de donner le top, hein?
Et toi, tu seras
indulgent,
s'il y a des
croix, des... Oui, on va voir. Résonance 4-4-4-96.9.
Tu rencontres l'usophone, on n'est pas à l'abri d'un coup de gueule ou d'un coup de cœur. C'est la petite chronique.
C'est la petite chronique.
Aujourd'hui, j'ai eu envie de tordre le cou à une idée reçue, celle que toutes les femmes portugaises s'appellent Maria. Eh bien non, c'est faux et archi-faux. On pense d'ailleurs beaucoup trop souvent à tort que les Portugais n'ont que deux prénoms, celui de Maria pour les filles et de Manuel pour les hommes. Alors certes, c'était sûrement vrai il y a quelques années, mais aujourd'hui, croyez-moi, les Portugais sont beaucoup plus créatifs que ça. Pour vous donner une petite idée des prénoms à la mode, parmi les garçons de moins de 30 ans, aujourd'hui on trouve bien plus fréquemment des César, des Arthur ou des Ruben que des Manuel. Du côté des filles, on trouve beaucoup de Tania, de Barbara, de Esther, de Rita ou de Salomé. Mais malgré tous ces beaux prénoms, il semblerait quand même que Maria, ce prénom qui brille tellement et depuis si longtemps chez les Portugaises, revient aujourd'hui en force. Eh oui. Le Portugal n'est peut-être plus le pays des Manuels, mais il continue d'être celui des Marias. Car depuis 4-5 ans, ce sont environ 6000 petites Marias qui naissent chaque année au Portugal. Et Maria, c'est un peu comme le prénom Marie ici en France. Un prénom intemporel qui va aussi bien à une petite fille de 10 mois qu'à une dame de 85 ans. Et comme la mode est plutôt au prénom se terminant en A, il y a aujourd'hui en France de plus en plus de petites Marias. Comme il y a d'ailleurs toujours eu des Marias chez les Basques, les Castillans, chez les Catalans, les Corses, les Galiciens, les Allemands, les Italiens et même chez les Russes et les Hongrois. Maria est universelle. Et ses origines sont multiples, puisqu'il se pourrait qu'elle soit issue de l'araméen Myriam ou Mariam, ou du hébreu Mara qui signifie amertume, ou encore de l'égyptien ancien Mérite. C'est vous dire l'universalité de ce simple prénom, Maria ou Maria en portugais. Voilà pour ce qui est de son étymologie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, porté par la mode de le prénom en A et fort de ses origines internationales, le prénom Maria a quand même réussi à se faire une vraie place aux côtés de son cousin Marie. Et je suis sûre que chacun de vous connaît dans son entourage au moins une Maria en prénom simple ou en prénom composé. Il y a d'ailleurs, sans compter les Marias portugaises, nombre de Marias célèbres partout dans le monde. L'actrice Maria Pacaume, la grande chanteuse d'opéra grecque Maria Callas, la diva américaine Maria Carey ou encore l'éducatrice italienne Maria Montessori. Avec le temps, le prénom Maria est devenu si courtisé au Portugal qu'il a fini par s'ancrer dans la culture portugaise au point d'avoir été à l'origine de plusieurs expressions très en vogue de nos jours. Et on le retrouve même dans le domaine de la gastronomie avec la célèbre cuisson au bain-marie. En portugais, banho Maria. Une technique de cuisson lente et douce que l'on doit, paraît-il, à Marie la Juive, une femme qui aurait vécu entre le 1er et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Marie était alchimiste et elle aurait inventé cette technique pour fabriquer des élixirs et produire des métaux précieux. Au Portugal, on a aussi la bolacha Maria, une sorte de petit lu portugais. Un petit biscuit tout plat et tout rond dont je suis quasiment sûre que tous les Portugais qui nous écoutent connaissent. Ils croient d'ailleurs certainement que ce petit biscuit qui a traversé toutes les générations est de création typiquement portugaise. Eh bien non. La bolacha Maria a été inventée par des Anglais. Ça paraît insensé, mais c'est vrai. À l'origine, il y avait deux boulangers britanniques, James Peake et George Anders Frinz, qui en 1857 décident de fabriquer et de vendre des biscuits en se déplaçant dans tout le pays avec un chariot ambulant. Très rapidement, le succès de ces biscuits a été tel qu'ils ont ouvert leur propre usine de fabrication. En 1874, à l'occasion du mariage de la grande duchesse Maria Alexandrovna avec le duc d'Édimbourg, les deux boulangers britanniques décident de donner le nom de Malille à leur biscuit rond, prénom qu'ils gravent d'ailleurs sur l'une des faces du gâteau. À l'époque, la cérémonie a été un énorme événement suivi partout en Europe, ce qui n'a donc fait qu'accroître un peu plus la renommée de ce petit gâteau rond. Et tout le monde voulait évidemment goûter ce petit biscuit rigolo qui portait le nom d'une duchesse. Et un peu partout, on a commencé à imiter ce biscuit. Au Portugal, les bolachas Malille, produites en grande quantité au tournant du XXe siècle, sont rapidement devenues partie intégrante de la culture nationale. Avec leur petit goût très particulier, elles sont devenues le biscuit de la petite enfance et de la saudade, puisque là-bas, on les savoure dès sa plus tendre enfance. Aujourd'hui, ces biscuits sont tellement liés à l'identité du Portugal que pour un Portugais vivant loin de chez lui, manger un biscuit Malille, c'est un peu une façon de renouer avec ses origines. Et tenez-vous bien, la bolacha Malille a conquis le monde car on en mange au Mexique, au Japon, en Norvège, à Singapour, en Jordanie et au Brésil bien sûr. Et ce n'est pas tout pour ce prénom Malille. Avec le temps, il est devenu si courtisé et si populaire qu'il a fini par entrer dans la culture portugaise au point d'avoir été à l'origine de deux expressions populaires très en vogue de nos jours. Si vous êtes lusophone et si je vous dis « Malille va com as outras » ou « Malille que chouche », vous saurez certainement de quoi je parle. La première expression « Malille va com as outras » s'utilise pour une personne qui n'a pas d'opinion propre, puisque « Malille va com as outras » pourrait se traduire par « Maria va avec les autres ». C'est-à-dire qu'elle s'applique à une femme et plus largement à une personne qui se laisse porter par les autres, un peu comme un mouton de Panurge. Cette expression trouve son origine au début du XIXe siècle. On l'associe à la reine Dona Maria Primeira, très connue pour sa folie. On raconte que lorsqu'elle sortait, elle était toujours accompagnée par ses dames d'honneur, car elle était incapable de sortir seule. Ce qui a bien sûr provoqué des commentaires du genre « Tiens, voilà Malille qui va avec les autres ». Et puis, il y a l'autre expression portugaise, tout aussi connue, et qui est « o tempo de Malille que chouche ». Une expression qui s'utilise pour désigner quelque chose de très vieux et d'un autre temps. En fait, on ne connaît pas trop l'origine exacte de cette expression, mais la plus probable serait certainement que la quechouche serait une danse espagnole très en vogue autour du XIXe siècle. Et de par l'énergie déployée, elle aurait alors trouvé un certain écho au Portugal, là où on a commencé à la danser dans des milieux populaires. Et voilà. Voilà comment un petit prénom de 5 lettres peut faire le tour du monde. Et pour clore cette petite chronique, j'aurais bien très bien pu vous passer un titre de Jean Ferrat, Maria. Mais comme il est un peu triste, je lui ai préféré un titre en portugais, chanté avec un accent espagnol, juste histoire de voyager un peu. Je vous propose donc d'écouter Maria la Portuguesa par Maria do Céu.
Cravos e luar de Ayamonte até Vila Real, sem rumo pelo rio, entre suspiros, uma canção vem e vai, cantada por Maria, por amor a um andaluz. Maria é a alegria e é a agonia. Conhecer esse homem numa noite de vinho verde e calor, entre palmas e fandangos, já foi enredando, transtornou-lhe o coração. E na praia de Isla se perderam os dois, onde morrem as ondas, beijou sua boca e se entregou. Portuguesa, mas
da diamanti a te farò, ove se ste fado per la taverna, onde beve vino amargo, perché canta con tristezza, con os seus olhos fechados, por amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Fado, porque me faltam seus olhos, fado, porque me falta sua boca, fado, porque se foi pelo rio, fado, porque se foi pelas sombras. Que uma noite nos barcos de contrabando o lagostim foi pescar, e na sombra do rio disparo se ouviu, e daquele sofrimento nasceu o lamento desta canção. Ai, Maria Portuguesa, desde Ayamonte até Faro, ouve-se este fado pelas tabernas, onde bebe vinho amargo, porque canta com tristeza, com os seus olhos fechados, por amor desgraçado, por isso canta e por isso pena. Porque me faltam seus olhos, fado, porque me falta sua boca, fado, porque se foi pelo rio, fado, porque se foi pelas sombras. Fado, porque se foi pelo rio, fado, porque se foi pelas sombras.
C'est l'heure de la chronique culturelle
de Rencontre Lusophone.
Le Portugal et le Japon ont une longue histoire en commun. On estime de nos jours qu'au moins 620 000 Portugais vivent en Asie, dont une bonne partie au Japon. En réalité, les Portugais furent les premiers Européens à débarquer au Japon, au XVIe siècle, un petit peu par hasard, du moins au début. L'arrivée des Occidentaux et des Portugais, en l'occurrence, au Japon, ont eu beaucoup d'impact. Un des plus importants fut l'introduction par les Portugais des armes à feu. Les rois japonais qui les maîtrisèrent par la suite vont conquérir le reste du Japon et réunifier le pays. Affirmer que indirectement c'est grâce aux premiers explorateurs portugais que le Japon que nous connaissons aujourd'hui est ce qu'il est ne serait pas exagéré. Maintenant évidemment c'est une théorie qui se discute. Dans son livre Les Pérégrinations, Mendes Pinto assure que c'est lui, en compagnie d'autres comparses, suite à un naufrage qui arrivèrent les premiers dans une île japonaise. Après moult aventures, Mendes et ses sept compagnons furent embarqués sur deux jonques chinoises qui appartenaient à un pirate chinois, cinq dans l'une et trois dans l'autre. Les Portugais pensaient qu'ils faisaient route vers le sud, direction Malacca, mais en fait, le pirate chinois les emmenait vers le nord. En chemin, ils furent attaqués par d'autres pirates qui réussirent à couler une des deux jonques, précisément celle où avaient pris place cinq Portugais. La deuxième jonque, celle de Mendes Pinto et deux de ses compagnons, arriva à s'enfuir, mais mal en point, le bateau dériva des jours, jusqu'à qu'ils essuient une terrible tempête, avant de débarquer, ou plutôt, pratiquement s'échouer sur une île japonaise. C'était l'île de Tanekashima, au sud de Kyushu, Okinawa. L'introduction des armes à feu au Japon a eu plusieurs témoignages. La plus connue est la version de Mendes Pinto dans son livre, mais il y a d'autres versions, dont une qui est japonaise. L'histoire est légèrement différente. Si dans l'ensemble, aucune des deux ne conteste le fait que ce sont bien les Portugais qui ont introduit les armes à feu au Japon, c'est dans les noms des protagonistes et les dates des faits qui se sont déroulés où il y a une différence. Ce qui va suivre sont des extraits du livre de Mendes Pinto et la narration qu'il en fait quand ils sont arrivés dans l'île de Tanekashima. Après 23 jours de travail et de danger, nous fûmes jetés dans une anse inconnue où deux petites barques s'approchèrent aussitôt de notre jonque. Six hommes, qui les montaient, nous demandèrent ce qui nous avait amenés dans leur île. Sami Pocheka, qui était leur ami corsaire chinois, les reconnut à leur langage pour des Japonais et se faisant passer pour un marchand de la Chine qui cherchait à faire du commerce. Il apprit d'eux que nous étions dans l'île de Tanikshuma. Ils nous montrèrent dans l'éloignement la grande terre du Japon et nous promirent un accueil favorable de leur seigneur, auquel ils donnaient le titre de Notaka. Fin de citation. Selon le livre de Mendes Pinto, dira qu'ils furent effectivement bien reçus. Les jours passèrent, et puis un jour à la chasse, mais laissons plutôt parler notre ami Pinto. Diego Mzemoto, l'un de mes compagnons, était le seul de nous qui eut réussi à conserver son arquebuse dans tous nos malheurs et s'en servait très adroitement dans la campagne, sans se douter que cette arme fût encore inconnue au Japon. Cependant, un jour que Mzemoto avait tué plusieurs canards dans un marais voisin de la ville, il fut remarqué par quelques habitants qui ne connaissaient pas cette façon de tuer du gibier. Fin de citation.
Tristemente embarcados, com rumo sem rota, velejando no ar, com grande medo levados em formosa frota de casco a abanar, rebentam as ondas gigantes, coisas alucinantes, quebra-mar, quebra-mar. Uma prece na garganta, Nossa Senhora Santa Almiranta, a vomitar, procurando novos mercados, em nome de Deus, vai ele reengordar. Como por nossos pecados, desatinados às cegas do escuro do mar, salta um mostrengo barbudo, com o peito peludo a rotar, nós senhores do barlamento, aleme gemendo tremendo, a quem soubera nadar. E com a pressa que podíamos, nos fizemos de volta, esquecendo mercês, se à vista daquilo que víamos, nos tremiam as carnes, nos dava gaguez. Ao serviço de Deus, Nosso Senhor, regressa assim teu esposo. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Mas o avarento agiota depressa nos manda de novo embarcar, banqueteados com muitos açoites ao longo da costa, quem se há de salvar. Tragam pimenta à fazenda, a prata sangrenta, a rezar, metam o turco a tormento, fé da Mafamed que fale onde fica o bazar. E assim fomos de atropelo sobre a gente que não tinha em boa conta o nosso apogeu, nos merecia a latina cólera por selo da honra de Deus. Vivos lançados ao mar, com grande penedo ao pescoço a afundar, ouvem-se as gritas a pupos dos turcos malucos, eunucos, atacar, atacar. E foram tantas as pedras, os arguchos, as lanças e as chuças de arremesso sobre nós, que fugíamos a sás com a pressa que podíamos depois de tanto pelejar. Ao serviço del rei, Nosso Senhor, regressa assim teu esposo. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor, confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Foi-se o tempo passando da nau a paquete, lá vai Portugal. Leva gente do arado, peões e joguetes em calção colonial. Negro trabalha canalha, que a tua mortalha é este ultramar. Colhe matumbo, café, que a gente tem fé, espanzé, de lucrar e lucrar. Fomos misturando guitarras ao som do batuque, bebendo maruvo, e num sentimento bizarro, casando com a negra depois de viúvo. Estoura uma força gigante, vermelha, negra, vibrante, a lutar, a queimar. Liberta um povo oprimido e perde o diamante purgante, quem nos andou a mandar. e desmanchamos as casas, tornamos de volta pobres numa muleta, balbuciando estranhas palavras à cacumaca. Acabou-se a teta ao serviço de grandes senhores. Regressa de vez teu esposo neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor. Confiado nesta promessa, enganado nesta esperança, neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor. Confiado nesta promessa, enganado nesta esperança. Neste vento bonançoso, meu lindo e ditoso amor. Confiado nesta promessa, enganado nesta esperança.
Le bruit de cette découverte arriva aux oreilles du Nantaquin, qui alla voir ce prodige que les Portugais firent. Le prince, arrivé sur les lieux, demanda à Zemoto de faire une démonstration de sa terrible arme. Mendes Pinto raconte. Mais lorsque Zemoto eut tiré devant lui deux ou trois coups qui firent tomber autant d'oiseaux, il parut d'abord effrayé, et dans sa première surprise, il attribua ce prodige à quelque pouvoir surnaturel. Toutefois, dès qu'il eut appris que c'était un art de l'Europe qui dépendait du secret de la poudre, il tomba dans un excès de joie et d'admiration, dont on va avoir une idée. Mendes Pinto et le troisième portugais, qui s'appelait Christophe Bourralho, furent, vous en doutez bien, assez surpris de cet excès de joie. Mais il est évident que le prince japonais avait vu tout de suite le potentiel meurtrier que pouvait avoir cette arme dans les batailles. Que pouvait faire une armée de samouraïs qui n'aurait que leur sabre face à des hommes équipés d'arquebuses. Zemoto n'eut d'autre choix que d'offrir son arme au Nantaquin, qui en retour lui donna une vraie fortune et un rang social élevé dans la société japonaise. D'ailleurs, si on se fie aux écrits de Mendes Pinto, Zemoto restera au Japon. Avec leur ingéniosité légendaire, les Japonais vont vite en faire des copies, qui seront aussi efficaces que l'original. Le Nantaquin envoya à son oncle, le roi de Bango, des exemplaires de l'arquebuse. Et à partir de là, tout commença. Cela est la version de Mendes Pinto dans son livre « Les pérégrinations ». Pour rappel, l'ouvrage fut écrit dans les années 1570 et fut édité en 1614 à Lisbonne, après la mort de Fernand Mendes Pinto. Mais il existe une autre version de l'introduction des armes à feu au Japon, qui est, on peut dire, légèrement différente de celle des pérégrinations. Il existe un ouvrage daté de 1606 et intitulé « Notes sur les arquebuses »,« Tepoki » en japonais, écrit par un moine bouddhiste du nom de Nampo Bansi, qui relate l'introduction des armes à feu dans le Japon du XVIe siècle. Que ce soit d'ailleurs Mendes Pinto ou bien Nampo Bansi, les deux, dans leur ouvrage respectif, nomment l'île Tanikashima comme le lieu de la première fois. De plus, les deux sont d'accord sur le fait que les Occidentaux qui amenèrent les armes venaient d'une jonque chinoise. Mais apparemment, il existe des différences assez notables entre les deux écrits. D'abord, la date des faits et l'identité des passagers portugais. Là, le moine bouddhiste d'accord sur ce point. C'était bien des naufragés portugais, qui à cette époque étaient appelés par les Japonais et les Chinois, les barbares du Sud. Les écrits de Nampo Bansi furent rédigés suite à la demande du seigneur de Tanikashima. Il narre dans son livre qu'une jonque chinoise, mal en point, elle avait subi une terrible tempête, fit son apparition dans l'île de Tanikashima. Il y avait à son bord une centaine de Chinois et des Portugais. On les présenta aux Japonais comme étant des marchands venus du sud-ouest, d'où leur surnom de barbares du sud. Nampo Bansi n'indique pas dans son livre le nombre exact de Portugais qui étaient présents, mais il nomme le nom de deux d'entre eux. Le moine bouddhiste cite d'abord leur chef, un certain Murashu Kusha, et un second qui se nommait Kirishita da Mota, que l'on pourrait transcrire en portugais Christian da Mota. Maintenant, on peut imaginer que le premier nom fut très corrompu et correspondrait à Fernand Mendes Pinto.
Thank you. do Japão. Bem baixinha, rente ao chão. Transportou-me ao paraíso, recordando seu sorriso. Cerejeira do Japão, dar-te-ei meu coração. Nunca mais te esquecerei, ó flor. Cerejeira és meu amor. Tive um sonho lindo de amor num recanto pequenino japonês. Foi tão lindo o sonho que até quis acordado ter sonhado outra vez. Japão, bem baixinha, rente ao chão, transportou-me ao paraíso, recordando seu sorriso. Cerejeira do Japão, dar-te-ei meu coração. Nunca mais te esquecerei, ó flor, cerejeiras, meu amor.
Comme dans les pérégrinations de Pinto, le texte de Binchy relate également une démonstration de l'arquebuse, faite devant le seigneur du coin, lors d'une partie de chasse. Le seigneur en question s'appelait Tanekashima Tonitaka. Bien sûr, ce dernier explosa de joie et alors acheta, à un prix exorbitant, paraît-il, deux de ses armes à feu. Puis les Portugais apprirent aux Japonais les procédés de fabrication de la poudre nécessaire à l'utilisation des arquebuses. Plus loin dans son livre, l'auteur raconte que ces étrangers revinrent l'année d'après et enseignèrent cette fois-ci les techniques de fabrication des culasses. Toujours selon Nampo Bensi, l'île de Tanekashima, dans les années qui suivirent, devint rapidement l'un des principaux centres de production d'armes à feu de l'archipel du Japon. Bon, disons-le tout de suite, beaucoup d'historiens de nos jours considèrent avec méfiance les écrits de Mendes Pinto, qui, il faut bien l'avouer, fut plus rédigé comme un roman d'aventure qu'un véritable document. Maintenant, un document est moins apte à susciter l'intérêt qu'un récit tourné à la manière d'un roman. Voilà ce qu'en dit Guillaume Carré, qui est maître de conférence à l'EHESS. Il est spécialiste de l'histoire économique et sociale du Japon prémoderne, dans le livre « L'exploration du monde » paru aux éditions Seuil. Je cite « L'examen critique de ces récits fait soupçonner qu'il a amalgamé dans ses mémoires, à ses propres souvenirs, des histoires glanées dans d'autres textes, ou peut-être dans les tavernes parsemant la route entre Goa et Lisbonne. » Et qu'il n'a pas hésité à s'attribuer des péripéties qu'il n'a pas lui-même vécues, quand il ne les a pas complètement inventées. Par ailleurs, on ne trouve dans le texte japonais aucun nom qui évoque de près ou de loin Pinto. Mais celui-ci ne figure pas non plus dans le traité des découvertes d'Antonio Galvão, publié en 1563, qui, s'il nous indique lui aussi que les premiers Portugais abordés au Japon n'étaient que trois, mentionne Antonio, et non Christian, da Mota, Francisco et non Diego Gemoto, qui serait peut-être le Murashu Kusha du texte japonais, et Antonio Peixoto. Galvão donne 1542 comme l'année de la découverte, mais il s'accorde cependant avec Pinto pour l'attribuer à quelques Portugais partis depuis le sud-est asiatique sur un navire chinois pour le sud de la Chine, avant d'être poussé par une tempête jusqu'aux côtes japonaises. Fin de citation. Mendes Pinto, dans son livre « Les pérégrinations », donnera l'an 1545, comme étant l'année de l'abordage des Portugais sur l'archipel nippon. Effectivement, beaucoup de spécialistes commencent à douter sérieusement de la véracité des écrits du portugais, et surtout des incohérences au niveau de la chronologie qui décrédibilisent son récit, du moins en ce qui concerne l'introduction des armes à feu au Japon. Il n'empêche que son livre est un formidable témoignage de la vie quotidienne des premiers explorateurs et aventuriers portugais. Et s'il ne fut pas un des premiers sur l'île de Tanegashima, c'est vrai que sur ce coup-là, il y a de fortes présomptions qu'il ait affabulé. Il n'empêche que sa présence précoce au Japon ne fait aucun doute. Il sera l'un des compagnons de Saint François Xavier en partance pour le Japon, pour évangéliser les Japonais. La présence de Mendes Pinto fut confirmée par une lettre écrite par Xavier lui-même.
Estando triste, cantava. tamanha, meu chão, meu monte, meu vale, de folhas, flores, frutas de ouro. Vê se vês terras de Espanha, areias de Portugal.
Mais en toute impartialité, Guillaume Carré dira plus loin dans son texte. Si Pinto a pu s'inspirer du bref texte de Galvan, son récit beaucoup plus détaillé présente des points de concordance avec celui de Nampo Bainsy. Plus loin, il écrit « Cela semble indiquer que même s'il n'a jamais sans doute pas fait lui-même partie des Portugais échoués à Tanikashima, Pinto a en tout cas dû avoir accès à des témoignages d'excellente qualité, émanant, sinon des protagonistes de cette découverte, du moins de personnages qui en furent proches. » Fin de citation. En a-t-il fait vraiment partie ou non? Je pense que on ne le saura jamais. Est-ce vraiment important? L'essentiel, c'est de savoir que ce sont bel et bien des Portugais qui ont introduit les armes à feu au Japon. D'ailleurs, il n'y a pas que ça qu'ils ont introduit, sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Depuis la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, en 1492, une nouvelle maladie sympa est venue du Nouveau Monde, la syphilis. Elle se propagea dans les principaux ports et bordels de l'Asie du Sud-Est jusqu'à atteindre l'archipel du Japon, où elle s'en donna à cœur joie. La mondialisation était née. Bien sûr, vous allez me rétorquer que la syphilis était connue des Européens, depuis longtemps certes, mais elle était peu virulente et ne faisait guère de dégâts. Par contre, la bactérie qui était responsable de la maladie de l'autre côté de l'Atlantique était bien plus meurtrière, et quand les deux souches se rencontrèrent, grâce à des marins de Christophe Colomb, cela provoqua une mutation et le nouveau variant se répandit dans le monde entier, semant la mort aux quatre coins du globe. Mais revenons à notre histoire. Par la suite, on essaya de tenter d'élucider et d'expliquer cette différence dans les différents témoignages, du moins en ce qui concerne les dates du débarquement des Portugais sur l'île de Tanikashima. En plus du récit de Mendes Pinto, du moine bouddhiste japonais et de Galvan, on peut retenir aussi les écrits d'un Espagnol, García d'Escalante Alvarado, qui rédigea un ouvrage sur l'expédition de Ruy López de Villalobre. Alvarado fut retenu prisonnier en Asie au milieu des années 1540. Il relate dans ses écrits le voyage de Portugais aux îles Ryukyu, qui dut avoir lieu en 1542. Voyons voir, récapitulons. Chronologiquement, nous avons Alvarado et Galvan, qui donne l'année 1542. Puis vient le moine Nampo Bainsy, qui donne exactement septembre 1543. Et enfin, arrive notre ami Mendes Pinto, qui donne l'année 1545. C'est vrai qu'il y a là manière à perdre son latin. Bref, il n'empêche que, sitôt la découverte du chemin qui menait au Japon, toutes sortes d'aventuriers portugais tentèrent l'aventure, que ce soit avec des bonnes ou des mauvaises intentions. Les jésuites, dirigés par Saint François Xavier, firent des expéditions dans l'archipel nippon pour y mener des campagnes d'évangélisation, notamment à partir de 1549. Apparemment, cela faisait déjà belle lurette que les Portugais, pour des raisons avant tout mercantiles, cherchaient la route du Japon. Et pourquoi me direz-vous? Car depuis des dizaines d'années, des mines japonaises s'étaient mises à produire des richesses fabuleuses, et l'appétit féroce des Occidentaux ne faisait qu'augmenter. Entre autres, des mines d'argent faisaient la prospérité de certains grands seigneurs nippons. Ils avaient importé un procédé de purification de Corée, qui permettait de rendre le minerai d'argent presque pur. Ce métal, progressivement, servit à frapper les pièces de monnaie au Japon, mais aussi jusqu'en Chine, durant le XVIe siècle. Dès lors, le Japon, tout le long du siècle, allait devenir le principal fournisseur d'argent de toute l'Asie et de l'Europe. Vous pensez que dans ces conditions, les Portugais mirent les bouchées doubles pour tenir secret la voie maritime qui menait à l'archipel nippon, le plus longtemps possible. Mais c'était un secret de polichinelle. Les Chinois connaissaient déjà bien longtemps la route. D'autres puissances européennes commencèrent à s'intéresser au Japon, les Espagnols, et puis surtout, par la suite, ceux qui, progressivement, allaient prendre la place aux Portugais, les Hollandais.
Com três paus faz-se bordão, com mais faz-se ponteiro. O demo anima a função, encarnado num gaiteiro.
O diabo já é velho, mas mas é grande folião. Na festa mete o bedelho para animar a bailação. Para aquecer o bailarico, abre a torneira ao túnel. O cura dá-lhe o pânico, lá se vai o hidromel. Esta bebida dos anjos que agrada tanto ao demónio. Já tentou São Cipriano, São João e Santo António. Santo António milagreiro fez um pacto com o demónio. O diabo era gaiteiro e o santo tocava harmónio. São João tocava a caixa com dois paus de marmeleiro. Mas o delírio das moças era a gaita do gaiteiro. Guinchava como um leitão quando se lhe puxou o rabo. Pela copa do bordão chorravam roncos do diabo. Era a gaita do demónio que soava em dia parada. Afinava com o harmónio, mas não estava homologada. Estava fora das medidas, saía da convenção. Tinha veias no ponteiro e dois papos no bordão. Criação de Belzebu, diabólica magia. Nas voltas da contradança, quem dançava enlouquecia. E nas voltas da loucura, as almas em desatino saltavam de corpo em corpo, errando do seu destino. O gaiteiro a reunia como se junta um rebanho. Fê-las descer ao inferno, no fogo tomaram um banho. E já os corpos em brasa iam fazendo das suas. As vestes esfarrapadas mostravam as carnes nuas.
Absolutionem et remissionem peccatorum tribu ad nobis Dominum.
Com três paus faz-se um bordão, com mais um faz-se um ponteiro. O demo anima a função encarnado num gaiteiro.
As fêmeas eram lascivas, ondulantes de paixão. Corroídas do desejo, contorciam-se no chão. No terreiro da função, os corpos se confundiam. Seguidores de Belzebu, das almas santas se serviam. Foram pela noite fora, perdidos no bacanal. Ao som desta banda louca, até ao juízo final.
Au XVIe siècle, des guerres féodales firent des ravages dans l'archipel nippon. Les seigneurs et shoguns japonais recevaient souvent avec cordialité ces nouveaux partenaires qui étaient les marchands portugais et hollandais, qui petit à petit essayaient eux aussi d'avoir leur place au soleil. Ce fut au point que certains seigneurs de guerre japonais se convertirent au christianisme pour avoir l'appui de ces puissants alliés occidentaux qui les aidaient à augmenter leur autorité. Et enfin, les Portugais trouvaient dans l'archipel nippon un pays avec lequel ils pouvaient commercer et avoir la main mise en Asie du Nord-Est, avant qu'ils obtiennent le comptoir de Macao en 1557. Cadeau que les Chinois leur firent pour remercier les Portugais de les avoir aidés à se débarrasser des pirates qui cumaient alors la mer de Chine. Et pour clore le sujet de l'importance des armes à feu au Japon, Guillaume Carré, dans son article, dit « Les recherches récentes relativisent l'importance de la rencontre de Tanegashima dans l'introduction des armes à feu au Japon, soulignant le rôle important qu'ont dû tenir dans ce processus les relations des Portugais avec la piraterie et le commerce international en Asie du Sud-Est et en mer de Chine. Ce sont d'ailleurs ces milieux qui répandirent ces armes à feu en Chine du Sud. » Fin de citation. Bien sûr, On peut être d'accord avec ses récentes recherches, historiques ou pas. Mais au-delà de tout ça, moi, simple novice, je m'aperçois d'une chose, c'est qu'on essaye encore de relativiser l'impact qu'eurent les Portugais à travers le monde au XVe et au XVIe siècle. Comme si on n'arrivait pas à admettre qu'un petit pays de 2 à 3 millions d'individus ait pu, un jour, être une des plus grandes puissances mondiales. Mais bon, revenons plutôt à nos moutons. En 1585, pour la première fois de l'histoire, un groupe de Japonais vont découvrir l'Europe. Cette visite n'aura qu'un but, consolider les échanges et les liens d'abord luso-nippon et puis entre les Européens et les Japonais. Il faut dire qu'aux environs de 1580, on compte dans les 150 000 Japonais convertis au christianisme. Et à partir de 1585, pas loin de 300 000 nippons seront convertis. Ce qui commença à faire grincer sérieusement des dents certains notables et seigneurs japonais qui pensaient que les Portugais étaient quelque peu encombrants, ce qui n'était pas entièrement faux. Le groupe de Japonais qui visita l'Europe partirent de Nagasaki, passèrent à Goa et arrivèrent, après 2 ans et demi de voyage, à Lisbonne en août 1584. Ils y restèrent 20 jours, puis se rendirent à Rome, en passant par Évora, Tolède, Madrid, Alcala, Livourne, puis Pise, Florence, Sienne et enfin Rome, où ils furent reçus par le pape Grégoire XIII, qui alors était très malade. Durant le temps de leur séjour, ils assistèrent à la mort de Grégoire XIII, et à l'intronisation de son successeur, Siste V. Ils ne retournèrent à Nagasaki qu'en 1590. Ce voyage n'eut d'autre but que de faire accepter le christianisme au Japon, leur démontrer que la religion chrétienne était la meilleure qui soit. Et enfin, pour mieux consolider les échanges commerciaux entre l'Europe et l'archipel nippon. Et pourtant, il y avait beaucoup de différences entre les deux peuples, pour preuve un manuscrit qui fut retrouvé dans les années 1940. Et écrit en 1585 par un jésuite du nom de Luis Froïs, intitulé « Le traité sur les contradictions et différences de mœurs entre les deux peuples ». Luis Froïs est considéré par ses pairs comme le premier historien du Japon prémoderne. Voilà ce qu'il en dit en ce qui concerne les différences entre les Européens et les Japonais. Je cite « Les Européens tiennent pour beaux les grands yeux. Les Japonais les trouvent horribles. Pour eux, les beaux yeux sont fermés du côté des larmes. » En ce qui concerne les codes sociaux, ce n'est pas mieux, il dit. Nous crachons tout le temps et n'importe où. Les Japonais ravalent d'ordinaire leur crachat. En Europe, il est inconvenant de se découvrir, ne serait-ce que du bout du pied pour se réchauffer devant l'âtre. Au Japon, celui qui se tient auprès du feu n'a nulle honte de se mettre cul nu pour la mettre la même fin. En matière d'éducation, il en remet une petite couche, voilà ce qu'il en dit. En Europe, l'enfermement des jeunes filles et demoiselles est constant et très rigoureux. Au Japon, les filles vont seules, là où elles veulent, aller pour une ou plusieurs journées. Quand elle est médecine, il dit carrément que c'est le jour et la nuit, il écrit. Nous, les Européens, pratiquons des saignées. Les Japonais usent de boutons de feu faits d'herbe. Effectivement, les Japonais étaient bien en avance dans le domaine de la médecine, largement plus que les Européens. C'est bien simple. En Europe, quand on voyait quelqu'un guérir par l'intermédiaire de plantes, on les faisait frire sur un bûcher.
Tem coladeira, terra pouco, cheia de amor. Tem batuque, tem funaná. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. Oi, tanto saudade, saudade sem fim. Oi, tanto saudade, saudade, saudade. foi tanto saudade, saudade sem fim. Canta brilhar, e na mar boiou areia, que canta moiar, espalhou nesse mundo fora, só rote mar, teve pouco cheio de amor, tem morna, tem coladeira, terra sal cheio de amor, tem batu, tem funaná, espalhou nesse mundo fora. Só ótima, terra pouco cheia de amor. Tem morna, tem coladeira, terra pouco cheia de amor. Tem batu, tem funaná. Petit pays, je t'aime beaucoup. Petit, petit, je l'aime beaucoup. Petit pays. Je t'aime beaucoup, petit, petit, je l'aime beaucoup.
Malgré ce voyage de rapprochement, la situation du christianisme et des Portugais a bien changé au Japon. Dès juillet 1587, des premiers bannissements sont pratiqués sur des missionnaires. La multiplication des incidents, liés notamment à l'arrivée des Espagnols et d'autres ordres mendiants, tels les dominicains et les franciscains, vont précipiter les choses. Des arrestations ont lieu, et puis la mise à mort d'un groupe de 26 chrétiens non loin de Nagasaki, le 5 février 1597, a provoqué la promulgation d'un nouveau décret d'expulsion à l'encontre des religieux et des Portugais, qui va durer 3 siècles. Petit à petit, les Hollandais vont prendre la place des Portugais. De plus, beaucoup de navires bataves étaient financés par des descendants des Juifs portugais qui avaient été expulsés hors du Portugal au début du XVIe siècle. Ce fut une petite revanche posthume, on va dire. Mais les Portugais auront toujours le comptoir de Macao, et s'ils sont persona non grata au Japon, ils continuent à commercer dans la mer de Chine. Le siècle chrétien du Japon finira en 1650. Les Occidentaux, avec les Portugais, en fer de lance, auront tenté vainement de christianiser l'archipel nippon. Le shogun Tokugawa Ieyasu a fait de la lutte antichrétienne l'un des axes forts de son règne. Et ce qui va clore définitivement le chapitre chrétien du Japon va être la mort de l'ancien chef de la mission jésuite Shawano Shuan, alias Cristóvão Ferrer. La chasse contre les catholiques était telle qu'il avait abjuré son ancienne religion, et c'est en tant que moine bouddhiste qu'il est mort. Il est né vers 1580 à Torres Vedras, au nord de Lisbonne. Il entrera dans la compagnie de Jésus à Coimbra en 1596. Plus tard, il s'embarquera pour les Indes orientales en 1600 et arrivera au Japon en 1609. Il est vrai que vers 1600, on dénombrait dans les 300 000 catholiques dans l'archipel. Il y avait matière à faire. Mais il était trop tard, les shoguns qui se sont succédés mirent un point d'honneur à éradiquer le catholicisme au Japon. Ferreira, en 1614, fit le choix de rester dans l'archipel, malgré le danger. Après s'être fait torturer, il va renier sa foi et deviendra par la suite moine bouddhiste. Il se mariera avec une japonaise et aura 3 enfants. C'est après son mariage qu'il prendra un nom japonais. Inconsciemment, ce rejet quasi maladif de la chrétienté eut un énorme impact au sein de la société nippone. En faisant de la religion bouddhiste pratiquement une religion d'État, ce fut un des mécanismes de réunification du Japon, peut-être plus importante que l'introduction des armes à feu. Et ce fut aussi sûrement le point de départ du Japon que nous connaissons tous aujourd'hui. Malgré tout, le siècle portugais au Japon a laissé quelques traces, notamment dans la langue. Voici quelques mots issus du japonais qui viennent du portugais. À noter aussi que les Portugais furent les premiers à traduire le japonais. Le dictionnaire Nippo Jisso, c'était carrément un dictionnaire japonais-portugais. Voici quelques mots issus du portugais et qui sont usités par la nation japonaise. Harukuru, qui vient de alcool. Bidoro, qui vient de verre. Boro, qui vient de boule, gâteau. Botan, qui vient de bouton, un bouton. Furashoko, qui vient de frasque, qui est une flasque. Ou bien pan, qui vient de, du pain, c'est du pain. Sabato, qui bien sûr, tout le monde a compris, c'est le samedi. Ou bien tabaco, qui est le tabac. Ou alors chabon. Chabon, qui vient du mot sabon, qui est du savon en français, etc., etc. Et il y en a d'autres. Même de nos jours, surtout dans le sud de l'archipel, le portugais est appris dans beaucoup d'écoles nippones. Au Japon, vous êtes plus apprécié en parlant portugais ou français que si vous parlez en anglais. Et oui, le souvenir des bombes d'Hiroshima et Nagasaki sont encore vivaces dans les mémoires japonaises. Et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Voilà, l'émission arrive à son terme. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao.
Un maximum de musique, un maximum de son. 96.9,
c'est Radio Résonance.
Servir, caguei o escuso de me aproximar.